Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, durcir l'assurance chômage pour que plus de Français travaillent et donc contribuent au redressement du pays. C'est le credo de Gabriel Attal. On va analyser ses annonces d'hier soir. La réindustrialisation progresse en France, si on regarde les ouvertures d'usines. Et puis, quelle est l'enseigne préférée des Français? Réponse à la fin de ce journal de l'économie. Il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année, a confirmé hier le Premier ministre sur le plateau du 20h de TF1. Plus les Français travaillent, plus ils cotisent et plus cela apporte des recettes à l'État, explique Gabriel Attal, qui voit donc une manière de réduire le déficit. Zoé Pallier, le gouvernement envisage de réduire la période pendant laquelle les chômeurs touchent des allocations.
Oui, c'est même la piste privilégiée par le Premier ministre. La durée d'indemnisation est déjà passée de 24 à 18 mois en février dernier. Gabriel Attal veut donc aller plus loin en la portant à 12 mois minimum. Les salariés pourraient aussi devoir travailler plus longtemps pour ouvrir des droits au chômage. Et puis, un temps envisagé par le gouvernement, l'hypothèse d'une baisse du montant de l'allocation est pour l'instant écartée. Pas d'annonce précise donc, mais le cadre est donné. Les partenaires sociaux auront jusqu'à cet été pour négocier. Le Premier ministre est resté dans son couloir. Salut Éric Chevet de la CPME. On a quand même l'impression que les choix sont déjà faits, regrette à l'inverse Cyril Chabanier de la CFTC. Il dénonce, comme les autres syndicats, l'accumulation de réformes de l'assurance chômage ces dernières années. Celle qui verra le jour à l'automne prochain devrait permettre, indique Matignon, de dégager quelques milliards d'euros d'économies.
Merci Zoé Pallier. Alors, baisser la durée d'indemnisation une nouvelle fois, est-ce la bonne piste? Il faut trouver le bon équilibre, répond Bertrand Martineau, expert associé au sein de l'Institut Montaigne.
Si la durée d'indemnisation est trop longue, les gens s'installent dans le chômage de longue durée, ils perdent en qualification et c'est vraiment mauvais pour leur avenir professionnel. Inversement, si la durée d'indemnisation est trop courte, ils vont être incités à reprendre le premier poste devenu, ça sera peut-être précaire, qui va les ramener rapidement au chômage, et un poste en plus où ils seront déqualifiés et où ils ne seront pas efficaces. Et ce ne sera pas bon ni pour eux ni pour l'économie. Donc il faut trouver le bon équilibre. Alors, où est le juste équilibre? Je dirais que ça dépend aussi de la conjoncture. C'est-à-dire qu'il y a des emplois vacants, donc on peut espérer qu'en raccourcissant raisonnablement la durée de l'indemnisation, vous remettiez un certain nombre de personnes plus rapidement en emploi. Maintenant, ce ne serait pas non plus un effet massif. Il ne faut pas croire qu'on viendrait au plein emploi par ce genre de méthode, évidemment.
Le gouvernement avance donc sur sa réforme de l'assurance chômage, mais aussi du côté des résultats de sa politique de réindustrialisation, affirme-t-il avec le baromètre industriel de l'État. 200 ouvertures de sites industriels en 2023, 25 de plus qu'en 2020. L'agroalimentaire est le secteur le plus dynamique devant l'économie verte et circulaire. Alors Éric Cuoche, si on analyse un peu ces chiffres, la tendance est bonne, mais il reste encore des points d'amélioration.
La France attire les usines, surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Aquitaine. Ces deux territoires représentent plus de la moitié des créations de sites en 2023. Les Hauts-de-France aussi sont porteurs de promesses avec les futures gigafactories de batteries électriques. Un dynamisme à relativiser, nuance David Kousker, fondateur de Trendéo, observatoire de l'industrie.
Certains secteurs qui sont fortement et durablement impactés par les prix de l'énergie tirent un peu la langue. Il y a des restructurations dans l'automobile. Donc on a effectivement une cohabitation entre des secteurs qui vont bien et des secteurs qui commencent à avoir des difficultés plus marquées.
Et si la France voit un bond du nombre d'usines, elles sont généralement de taille modeste.
Sur les sites industriels de grande taille, on n'a pas du tout le nombre de projets qu'on devrait avoir par rapport à la taille de notre économie en France.
En cause, les lourdeurs administratives, explique Aloïs Kirchner de l'Institut Montaigne.
On se souvient de la décision de Tesla d'implanter sa gigafactory en banlieue de Berlin. La France était dans la compétition. C'est que les Allemands ont proposé à Elon Musk de commencer à construire son usine avant d'avoir reçu le permis de construire.
Même défaut face à la Chine et face aux États-Unis. L'Inflation Reduction Act y attire les investisseurs à coups de subventions et d'avantages fiscaux. Le territoire américain capte aujourd'hui un projet sur cinq dans le monde.
Éric Cuoche, c'est rare qu'on parle ici des résultats financiers annuels de la Monnaie de Paris, en l'occurrence 4 400 000 euros de bénéfices, mais il se trouve que ces résultats auraient été bien meilleurs si l'institution qui fabrique les pièces de l'euro n'avait pas fait une erreur à 800 000 euros, Éric Mauban.
Une affaire un peu embarrassante. La Monnaie de Paris se retrouve avec 27 millions de pièces de 10, 20 et 50 centimes non conformes à l'effigie de Simone Weil, Joséphine Baker et Marie Curie. La Commission européenne a estimé que ces pièces n'étaient pas conformes au cahier des charges imposé à la Monnaie de Paris, considérant que les 12 étoiles du drapeau européen n'étaient pas assez visibles. L'information a mal circulé. L'établissement français, afin de respecter le calendrier imposé par les délais de production, aurait donc continué à produire des centimes défectueux malgré la mise en garde informelle de l'autorité européenne. De nouvelles procédures ont été mises en place afin d'éviter que ce type d'incident se reproduise.
Éric Mauban en direct. Les marchés financiers, progression d'1% du Dow Jones hier soir. Nasdaq plus 1,5%. Le CAC 40 a gagné 0,25%. 8204 points. Le Nikkei est en recul d'1,69% en ce moment à Tokyo. Une enquête devenue la référence ces dernières années. EY Parthenon publie ce matin son étude annuelle sur les enseignes préférées des Français. Bonjour Frédéric Fessard.
Bonjour.
Vous êtes associé au sein du cabinet EY Parthenon, spécialiste du secteur de la distribution et de la grande consommation. Alors, roulement de tambour, c'est Action qui reste au sommet du podium des marques préférées des Français. Alors, ça semble à la fois une évidence au vu du contexte de pouvoir d'achat et en même temps, son maillage géographique, celui d'Action, est très faible par rapport au grand nom de la distribution. Alors, comment vous l'expliquez ?
Alors effectivement, ça fait 2 ans maintenant que Action est numéro 1 en taux de fans dans le cœur des Français. Alors oui, c'est un maillage réduit par rapport aux autres grosses enseignes, notamment de supermarchés, mais on parle quand même de 800 magasins. 800 magasins, c'est pas rien, c'est 2 fois moins que Lidl, mais c'est 2,5 fois plus que Decathlon, 6 fois plus que Leroy Merlin, et grosso modo, 90% des Français sont à moins de 20 minutes dans Action. Donc voilà, c'est une enseigne qui est très près de tous les Français, qui pénètre 85% des Français, on estime, et qui les fanatise à hauteur de 33%. C'est-à-dire que quand vous allez chez Action, il y a une chance sur 3 que vous en sortiez en disant « c'est Action, mon enseigne favorite pour acheter ce type de produit ».
Les fanatiques d'Action, alors Decathlon est 2e, Leroy Merlin 3e, 2 enseignes qui ont un positionnement clair et des valeurs positives aussi, on peut le noter.
Oui, tout à fait, c'est des enseignes qui sont ancrées durablement dans le cœur des Français. Elles ont des grosses notes sur les aspects de confiance, qualité d'offre, de conseil en point de vente. Et puis, elles sont connues pour avoir une grosse gamme de marques propres, témoins de qualité et de prix très compétitifs.
Autre enseignement, les magasins physiques font mieux que résister face au web.
Alors oui, c'est une nouveauté cette année. On a regardé l'évolution des ventes de produits sur le web. Et donc, l'an dernier, en 2022, les ventes de produits sur le web avaient fait moins 7%. Et en 2023, elles font encore moins 2%. Donc, quand on regarde la croissance des ventes de produits sur le web de 2019 à 2023, on n'est que à 6,5% de croissance par an. C'est plus de 2 fois moins que ce qu'on avait durant les années 2010. Donc oui, les magasins physiques font mieux que résister face au web. Les Français aiment leurs magasins. C'est d'ailleurs sur les enseignes physiques que les Français mettent les meilleures notes, sur à peu près toutes les dimensions. Et la dimension qui est la mieux notée par les Français, c'est l'expérience en magasin. On aime nos magasins pour la praticité, le conseil, le côté très fluide. Les Français, après le tsunami du Covid-19, reprennent goût à revenir en magasin et on le voit sur un ralentissement des ventes du web.
Merci Frédéric Fessard. Le podium, donc Action, puis Decathlon, puis Leroy Merlin. Viennent ensuite Picard, Ikea, Leclerc, Fnac, Amazon et McDonald's pour les enseignes préférées des Français de votre étude EY Parthenon. Dans un instant, l'animateur préféré des auditeurs de la matinale de Radio Classique, c'est David.